Gloire à notre Dieu. Je vous invite à suivre la lecture de la parole avec moi. Peut-être qu'il y a une partie de cette lecture qui a déjà été faite mercredi dernier. Ce n'est pas bien grave du tout. L'idée, c'est de nous remettre dans le contexte du texte de la lecture. Alors, nous allons lire à Jean chapitre 16 et les versets 12 jusqu'au verset 24. À la gloire du Seigneur. Jean chapitre 16, versets 12 à 24. C'est dans ce passage que nous poursuivons et avec la thématique que nous traitons dans la congrégation, les derniers entretiens et discours de Jésus avec ses disciples avant sa mort. Donc c'est à travers Jean chapitre 16, verset 12 à 24 que nous allons poursuivre ce soir cet enseignement. Jean 16, 12 à 24. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus? Et puis encore un peu de temps et vous me verrez et parce que je vais au Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit encore un peu de temps? Nous ne savons de quoi il parle. Jean chapitre 16, verset 19, Jésus connut qu'ils voulaient l'interroger et il leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous me demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevez afin que votre joie soit parfaite. Dès le Seigneur bénir la lecture de sa sainte parole pour notre plus grande édification. Mes frères et mes sœurs, j'aimerais porter attention au verset 13a où le Christ dit à ses disciples dans sa démarche visant à les fortifier, visant à les consoler dans la chambre haute, tandis que l'heure de sa mort, de son arrestation, de son procès, puis plus tard de sa mort s'approche un jeudi soir. Quand il leur dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc cette promesse n'est pas nouvelle dans le cadre, eh bien, de cet échange, de ces entretiens, de ces discours que le Christ a avec ses disciples ou bien prononce à l'intention de ses disciples cette promesse de la venue du Consolateur, comme le Christ lui-même l'appelle, et à le Saint-Esprit de Dieu, elle n'est pas nouvelle. Le Saint-Esprit, le Christ dit que le Saint-Esprit aura du pain sur la planche. Je me rappelle qu'on a regardé ça mercredi dernier, enfin que rappeler ce qu'on a vu ensemble, comme je l'ai dit dans l'introduction, avant que j'enchaîne avec la matière du jour, c'est-à-dire plus particulièrement la suite du passage à l'étude. Le Saint-Esprit aura du pain sur la planche. Il aura du travail à faire. Il aura des tâches à accomplir. Il aura de grandes œuvres à accomplir de la part du Seigneur Dieu le Père et de la part du Seigneur Dieu le Fils. C'est-à-dire que, en plus de convaincre le monde de péché, de justice et de jugement, et également, en plus d'avoir à consoler les enfants de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu conduira également ceux qui croient en Christ dans toute la vérité, à commencer par ces hommes à qui le Seigneur s'adresse dans la chambre haute, que nous savons qu'il y a un appel spécifique, un appel spécial adressé sur leur vie, un mandat spécifique, un mandat spécial, une mission spécifique, une mission spéciale. Donc le Saint-Esprit les conduira dans toute la vérité après eux et à travers le travail qu'ils auront accompli. Pensons à la codification. Nous aurons à notre tour à être conduits dans la vérité, dans toute la vérité, Dieu merci, par le Saint-Esprit de Dieu. Nous avions posé la question mercredi dernier, à savoir comment procédera-t-il pour conduire les saints apôtres d'abord et non après eux dans toute la vérité, comment il s'y prendra-t-il, hein? Comment le Saint-Esprit de Dieu s'y prendra-t-il, comment il le fera. Eh bien, nous avons expliqué que le Saint-Esprit fera cette œuvre en ce qu'il va inspirer le Nouveau Testament, la rédaction du Nouveau Testament. Il va inspirer la révélation du Nouveau Testament. La révélation du Nouveau Testament sera inspirée par lui, de la même manière que la révélation de l'Ancien Testament a été inspirée par lui. C'est dans l'inspiration, dans la direction, dans la supervision, eh bien, de l'écrit du Nouveau Testament, en tout premier lieu, que le Saint-Esprit enseignera aux disciples toute la vérité. J'ai évoqué, eh bien, plusieurs passages du Nouveau Testament qui corroborent, eh bien, ce que nous disons en ce moment, qui affirme très clairement que l'Écriture tout entière, dans sa version ancien testamentaire, ou bien vétérotestamentaire, et dans sa version néo-testamentaire du Nouveau Testament, donc, eh bien, est codifiée, est rédigée sous l'inspiration, sous la conduite, sous la supervision du Saint-Esprit de Dieu. Un des textes que j'ai partagé avec vous, c'était 1 Corinthiens 2, versets 9 et 10, où l'apôtre Paul nous confirme que les auteurs du Nouveau Testament sont guidés dans toute la vérité de la parole de Dieu, dans toute la révélation de Dieu par le Saint-Esprit, quand Paul dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées à nous les saints apôtres. Paul parle en son nom et au nom de tous les saints apôtres. Dieu nous les a révélées ces choses-là par l'Esprit. Voyez-vous? Donc, Paul corrobore cette affirmation. L'Esprit conduira également les croyants, une autre manière dont le Saint-Esprit de Dieu conduira les croyants dans toute la vérité, à part de conduire les saints apôtres dans la codification du Nouveau Testament, dans la rédaction, dans la définition, hein, et du contenu du Nouveau Testament, mais il conduira les croyants, dans toute la vérité également, en faisant comprendre ce qu'ils auront lu de la parole. Personne ne peut comprendre la Bible sans le soutien, sans l'aide, sans l'inspiration, sans la direction, eh bien, du Saint-Esprit de Dieu. Hein? Le Saint-Esprit de Dieu fera œuvre d'illumination. C'est comme ça que je l'avais appelé mercredi dernier. Il fera œuvre d'éclairage, d'illumination, eh bien, du cœur des enfants de Dieu. Hein? Le Saint-Esprit de Dieu nous instruit en ce qu'il nous produit, en ce qu'il nous transmet, il nous prodigue, il insuffle à nous, à nos sens, à notre esprit, hein, les enseignements cachés, trouvés, déposés dans la parole qu'il a inspirée lui-même. Il nous donne une révélation pour comprendre cet enseignement-là. Quelqu'un peut lire la Bible, avoir de grandes connaissances et ne la comprend pas. Mais quelqu'un qui est illuminé par le Saint-Esprit de Dieu peut ne pas avoir beaucoup de connaissances et comprendre la parole de Dieu dans ce que Dieu veut, en ce que Dieu dit. Parce que la Bible, ce n'est pas une question de lettres. La Bible, c'est une question de révélation. C'est Dieu qui parle. Alors, il faut vraiment être dirigé, guidé, soutenu par Dieu pour saisir sa révélation dans l'objectif de la révélation, dans le but de la révélation. Ce n'est pas juste de lire une phrase, mais c'est de comprendre ce que Dieu nous dit à travers tel ou tel eh bien, passage. L'apôtre Jean nous confirme cette vérité en 1 Jean 2, versets 20 à 27, quand Jean dit « Pour vous, s'adressant à des enfants de Dieu, s'adressant à des chrétiens, à des hommes et des femmes de Dieu, Jean leur dit, pour confirmer ce travail d'illumination, hein, c'est là qu'on est, hein, pour confirmer ce travail d'illumination, ou bien de conduite dans toute la vérité que le Saint-Esprit de Dieu opère auprès de chaque enfant de Dieu, depuis les saints apôtres jusqu'à nous, aujourd'hui et plus tard après nous, si Dieu veut, eh bien, on peut se référer à 1 Jean 2, verset 20, à 27, à 21, à 27 et 27 pour avoir cette confirmation. Quand j'en dis pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Voilà. Donc le Christ savait de quoi il parlait. Quand il disait que quand le Saint-Esprit de Dieu, le Consolateur, serait venu, eh bien, il conduirait ses enfants dans toute la vérité. Pour vous, l'onction que vous avez reçue, dit l'apôtre Jean, de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, Jean corrobore le dire du Christ et la promesse est réalisée en d'autres termes. Son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est la vérité, qu'elle est véritable, qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donné, c'est-à-dire que son onction, l'onction de l'Esprit Saint, vous a donné, m'a donné, et à frères et sœurs. Maintenant, nous allons enchaîner avec, nous étions encore au verset 13a. Tout cela, c'est pour le verset 13a. Nous allons enchaîner avec les versets 13b à 15 maintenant. Quand le Consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, 13a, car il ne parlera pas de lui-même, 13b, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Bien important de comprendre cela. Dans son état d'être incarné, dans son incarnation, hein, dans sa naissance, le Christ n'agit pas de lui-même. Le Christ, en tant que Dieu incarné, hein, il n'agit pas de lui-même. Il agit de la part de Dieu le Père. De la même manière, il n'agit pas pour lui-même. Il agit pour, hein, Dieu le Père. Sa mission, c'est d'accomplir parfaitement la volonté du Père. De la même manière, il n'agit pas de son propre chef. Il n'agit pas de lui-même. Hein. Il agit selon la volonté du Père, de Dieu le Père. De la même manière, hein, de la même manière, le Saint-Esprit de Dieu, hein, ne parlera pas de lui-même quand il viendra pour conduire les disciples du Christ, à commencer par les saints apôtres, par la garde rapprochée. Quand il viendra pour les conduire dans toute la vérité, hein, ce ne sera pas non plus de lui-même qu'il possédera. Hein. Il n'agira pas de son propre chef. Cependant, comme le Christ le dit, il dira tout ce qu'il aura entendu. Ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas déjà. Ce n'est pas parce que ce qu'il dira n'est pas de lui au sens large du terme, parce que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Il faut bien comprendre cela. Hein? Mais il faut comprendre dans la perspective dans laquelle on est en ce moment, dans l'accomplissement du plan de salut. Eh bien, la Trinité bénie, eh bien, c'est partagé. J'en ai parlé la fois passée ou à d'autres occasions. La Trinité bénie, eh bien, procède à une répartition de tâches, hein, dans ce qu'on appelle, eh bien, l'accomplissement du plan de salut de Dieu. C'est dans cette perspective qu'on parle de fonction du Fils, fonction du Père, fonction du Saint-Esprit, et on peut se permettre bibliquement ce genre de répartition de tâches. C'est pas Et c'est très important de comprendre la question de différence de fonction, de tâches à accomplir pour mener à la perfection le plan de salut. Donc, l'Esprit de Dieu ne parlera pas non plus de lui-même. De la même manière, j'ai déjà dit que de la même manière que le Christ, eh bien, n'a pas parlé de lui-même. L'Esprit agit toujours en parfaite harmonie avec le Père, à l'instar du Fils, dans sa mission terrestre, eh bien, qui eut à agir de manière dans la plus parfaite harmonie avec Dieu le Père. Alors, la direction du Saint-Esprit de Dieu sera conforme à la volonté de Dieu telle que révélée dans la parole de Dieu, dans sa fonction de révéler toute la vérité, eh bien, à ceux qui sont appelés à servir le Seigneur, aux enfants de Dieu. Par exemple, le Saint-Esprit de Dieu ne demandera pas, ne suggérera pas, ne proposera pas à quelqu'un de prendre un chemin contraire à la révélation de la parole de Dieu que lui-même a inspirée. Hein, tout ce qu'il dira sera en accord, eh bien, à ce que Dieu le Père a dit dans sa parole. Le Saint-Esprit de Dieu ne fera pas un ministère, eh bien, qui va dans un sens opposé, qui va dans un sens contraire. Il ne donnera pas une vérité ou des vérités, une révélation. Il ne donnera pas la vérité, eh bien, qui est contraire à la vérité, eh bien, de la parole de Dieu, parce que il va faire une œuvre qui est en confort, en parfaite harmonie avec ce que Dieu fait déjà. Donc, il parlera, eh bien, de la part de Dieu le Père. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu parle, eh bien, il va parler par la parole inspirée. Et c'est très important pour la doctrine de comprendre cela. Alors, lorsque vous avez une idée, on parlait la fois passée, je ne me rappelle plus si c'était mercredi dernier, on parlait du Saint-Esprit de Dieu qui parle et constamment à ceux qui s'attachent à Dieu, à ceux qui sont à Dieu, à ceux qui sont enfants de Dieu. Il parle, il révèle. Il donne de la direction, mais à chaque fois qu'on voit qu'on a une direction, une révélation qui ne cadre pas avec la parole de Dieu, on peut savoir tout de suite si cette révélation vient de Dieu. À partir du moment où la révélation cadre avec la parole de Dieu, est conforme avec la parole de Dieu, mais on saura que c'est l'œuvre de l'Esprit qui se fait en nous. On saura que c'est l'Esprit qui nous parle. Donc, ça nous garantit de toutes sortes d'égarements, hein, finalement. Ça nous garantit, ça nous préserve de toutes mauvaises décisions, hein, finalement. Et ça nous aide aussi à comprendre la volonté du Seigneur également. Si nous voulons savoir si telle ou telle chose nous a été révélée par le Saint-Esprit de Dieu, et on n'a qu'à regarder si c'est conforme à la parole. La plupart du temps, quand c'est conforme à la parole, mais c'est l'Esprit qui nous parle. C'est le bon Esprit qui nous parle. Parce que nous avons, nous sommes constamment soumis aussi à des voix opposées à la voix de l'Esprit, à la voix du Saint-Esprit de Dieu. Il y a d'autres esprits, il y a d'autres voix qui peuvent nous parler. Nous saurons si une voix est conforme à la volonté de Dieu, si c'est la voix du Saint-Esprit, quand c'est conforme et à la volonté de Dieu. C'est bien important. Donc, il y a le fait d'être rempli de l'Esprit, eh bien, commence par le fait de permettre que la parole de Christ demeure en nous. Le fait d'être rempli de l'Esprit, pour que ensuite l'Esprit nous conduise dans toute la vérité, eh bien, cela commence par le fait de permettre que la parole de Christ demeure en nous dans toute sa richesse, dit l'apôtre Paul. Et rappelons-nous, nous l'avions considéré ensemble, Éphésiens 6, verset 17, la parole de Dieu est appelée l'épée de l'Esprit. Voyez-vous? Donc, l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, l'Esprit ne peut pas nous donner une révélation, il ne peut pas nous donner une vérité qui est conforme, eh bien, à ce que lui-même a inspiré. Il me glorifiera, verset 14, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, Jésus révèle à ses disciples, à l'intention de ses disciples dans la chambre haute, le but de la révélation du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit va faire son œuvre? Quel est le but suprême, le but ultime de la révélation? Eh bien, du Saint-Esprit qu'on a regardé tout à l'heure, eh bien, c'est de glorifier le Christ. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera, Jean chapitre 16, le verset 14. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi je dis qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. On l'a déjà réglé. Il ne possède pas de lui-même. Il possède de ce qu'il aura reçu du Père. Et du Fils, c'est l'Esprit du Fils. Hein? L'Esprit Saint, c'est l'Esprit du Fils de Dieu. Le ministère du Saint-Esprit consiste à glorifier Dieu le Fils. De la même manière, le ministère de Dieu le Fils consiste à glorifier Dieu le Père. Il dit, Père, je t'ai glorifié. Maintenant, c'est à ton tour de me glorifier au terme du couronnement de son ministère. Et c'est ce que nous verrons au chapitre 17, entre autres. Il dira au Père, glorifie-moi parce que moi je t'ai glorifié, suivant la clause, suivant l'entente éternelle qu'il y a entre nous. Mais c'est voilà, c'est la même chose. J'en ai glissé un mot tout à l'heure. Hein. Toujours dans le cadre de cette répartition de fonctions, de tâches au sein de la Trinité bénie. Le but suprême, le dessein éternel et suprême du ministère de l'Esprit, entre autres, dans la conduite, dans toute la vérité des hommes qui croient au Fils, au Père et au Saint-Esprit, cela dit, eh bien, c'est de glorifier Dieu le Fils. Gloire à notre Dieu, frères et sœurs. Et comment il glorifie le Fils? Mais le Fils l'a très clairement expliqué. C'est en annonçant la vérité au sujet du Fils. Et par le fait même, cette vérité concerne la parole, parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, ou vous avez peut-être l'habitude de l'entendre, le sujet central de la Bible, c'est Jésus-Christ. Hein? C'est Jésus-Christ et c'est son œuvre. Et c'est le thème central de l'Écriture. Pas oublier ça, non? Le thème central de l'Écriture, c'est pas la création. Si vous voulez, vous pouvez dire Dieu par extension, si vous voulez. Le thème central, si on vous demande de résumer la Bible, en un thème, en un mot, le thème central de la Bible, mais c'est Jésus-Christ. Alors, tout ce qu'il y a, toute la révélation biblique tourne autour d'une personne, d'une œuvre, et la personne du Fils de Dieu. Donc, le Saint-Esprit le glorifiera en annonçant la vérité au sujet du Fils de Dieu et a, comme Christ, glorifié le Père en annonçant la vérité au sujet du Père. Hein? Le Fils est venu pour glorifier le Père en annonçant le Père, en révélant le Père. Il révèle le Père par l'enseignement oral qu'il donne à propos du Père, de l'œuvre du Père, de la volonté du Père. Il révèle le Père par sa vie, par son enseignement pratique, par son évangélisation personnelle, hein, dans sa manifestation d'amour, de joie, et de puissance, et de pardon, de bonté, de miséricorde, de sainteté. Il révèle le Père. Et par là, il glorifie le Père. Il le fait en acte ou bien en action, hein, par sa vie, et il le fait par ses dires, par sa parole, par ses actions et par ses paroles, par ses dires et par sa façon de vivre. Il révèle le Père et il parle, il enseigne à propos du Père en parlant du Fils. Mais maintenant, il nous fait comprendre que quand le Saint-Esprit de Dieu sera venu, il fait comprendre à ses disciples, quand le Saint-Esprit de Dieu serait venu, il ferait la même chose que lui a fait à l'égard du Père, le Saint-Esprit ferait la même chose à son égard, c'est-à-dire le révéler, le glorifier, en annonçant tout ce qui le concerne. Gloire à notre Dieu. Dieu est capable. Eh bien, Dieu n'a pas besoin d'aide, n'a pas besoin de soutien pour planifier ces choses, pour planifier ces desseins, pour les exécuter, frères et sœurs. Le Saint-Esprit de Dieu n'amène pas les gens à se tourner vers lui. Hein? Il y a ce qu'on appelle une loyauté et saine, sainte, au sein de la Trinité éternelle. Hein? Il n'y a pas de chicane pour des fonctions, il n'y a pas de lutte de pouvoir, il n'y a pas de lutte d'influence au sein de la Trinité bénie. Il y a une soumission et réciproque, sainte et saine entre les trois personnes de la Trinité éternelle et bénie. C'est un peu ce que le Christ est en train de nous enseigner également. Il va le dire très clairement au chapitre 17. De même qu'il y a unité entre toi et moi, mais je veux qu'il y ait unité entre eux également, voyez-vous. Donc, c'est bien important de comprendre cela. Lui-même, Saint Paul nous a déjà dit qu'il n'a point considéré comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Hein? Il est égal avec Dieu, mais il n'a point considéré cela comme une proie arrachée. Il a vécu toute sa vie terrestre dans la soumission à Dieu le Père. Il n'y a pas de problème pour cela. Il ne s'est pas levé un beau jour et dit, Dieu a utilisé ce pouvoir comme Adam l'a fait, comme Satan le diable l'a fait, comme Lucifer l'a fait. Il ne s'est pas levé un beau jour et dit, je vais utiliser ce pouvoir, cette influence que j'ai pour régler mes affaires à moi-même. Non, il a vécu, il est né dans la soumission au Père, il a vécu dans la soumission et donc dans la glorification du Père, il est mort dans la glorification du Père, il est ressuscité dans la glorification du Père, il est exalté dans la glorification du Père. Donc, toute sa vie a été une vie de soumission dans le cadre de son ministère terrestre. Mais le Saint-Esprit lui rend la réciprocité aussi, suivant le plan éternel de Dieu. L'Esprit n'amène pas les gens à se détourner du Fils pour se tourner vers lui. Cela dit, il les appelle, il les convainc à se tourner vers le Fils, à se convertir au Fils, à accepter le Fils. Frères et sœurs. Donc, le Saint-Esprit de Dieu est donné, cela dit, pour faire comprendre, connaître, découvrir aux enfants de Dieu la personne du Christ, l'œuvre du Christ, le ministère du Christ, les principes du Christ. Je répète, le Saint-Esprit de Dieu conduit les croyants dans toute la vérité en glorifiant, eh bien, le Saint-Esprit, en glorifiant le Fils, Dieu le Fils, et en amenant les gens à se soumettre, hein, à Dieu le Fils, à comprendre la nature, la personne, ou bien toute la vérité concernant l'œuvre, le ministère de Dieu le Fils et des principes que Dieu le Fils a établis pour la vie du Christ, pour la vie chrétienne. Notre Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, encore une fois, va faire cela en utilisant la parole inspirée de Dieu pour nous former, vous et moi, hein, à l'image, eh bien, de Jésus-Christ. C'est aussi, on est toujours verset 14 de Jean 16, c'est aussi une manière de glorifier le Christ. Il me glorifiera. Comment? en prenant de ce qui est à moi, la vérité qui est proclamée à mon sujet, les principes que j'ai établis, il vous conduira et vous l'annoncera. Voilà comment il va le glorifier. Incidemment, dans 2 Corinthiens 3, nous avons une confirmation de ce ministère de glorification du Fils par l'Esprit. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Je vous ai dit, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Fils, l'Esprit du Seigneur. Ici, Seigneur, c'est Jésus-Christ. Croyez-vous, gloire à notre Dieu. Alors, c'est très important de bien comprendre cette complicité saine et sainte, cette sainte complicité, complicité pour le bien, existant au sein de la Trinité bénie encore une fois, frères et sœurs. Et alors, cela nous amène hein, et au verset 16. Et quand le Fils de Dieu dit à ses disciples dans la chambre haute, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Les disciples écoutant le maître parler considèrent cette déclaration un peu comme énigmatique, hein, comme impénétrable, difficile à comprendre. Ils ont posé la question incidemment et dans leur cœur d'abord. Ils se sont posé la question. Le Christ a lu dans leur cœur. Ils se sont posé la question de quoi il parle. Alors, et apparemment, la déclaration semblait énigmatique. Elle est contradictoire même en apparence. On sait que c'est pas vrai, mais en apparence. Hein. Mais il va essayer d'expliquer la déclaration, l'affirmation, en utilisant une illustration à la base pour expliquer ce qu'il est en train de dire. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Bon. Et je vous mets en garde, il y a plusieurs interprétations qui est donnée par des hommes et des femmes de Dieu compétents et sérieux, responsables. Je vous le dis souvent quand je fais des études bibliques, je vous le dis tout de suite. Il est possible que vous entendiez d'autres explications de ce verset, OK? Quand j'ai à peine commencé à étudier avec vous, je vous l'avais déjà dit, si vous vous rappelez bien. Il se pourrait fort bien que s'il n'y avait pas parfois différentes interprétations, vous n'auriez pas besoin de pasteur pour étudier la Bible, OK? L'une des raisons pour lesquelles Dieu vous donne un pasteur, c'est parce que vous allez parfois être confronté à diverses interprétations. OK? Il faut qu'il y ait quelqu'un pour fixer l'interprétation révélée par Dieu pour la congrégation. Et j'aime mieux vous le dire parce que ça se peut que demain matin, où vous ouvrez vous faites une lecture, vous trouvez une autre explication. Vous vous souviendrez que je vous avais dit, il y a d'autres explications, mais voici l'explication, voici l'interprétation que moi j'adopte, voici l'école à laquelle j'appartiens. C'est important de se rappeler cela, OK? Alors, encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. Donc, deux, encore un peu de temps. Il y a deux, encore un peu de temps. Et chacun des deux, encore un peu de temps, débouche sur une réalité différente. Encore un peu de temps, et vous me verrez. Et puis, encore un peu de temps. Et vous ne me verrez parce que je vais au Père. Donc, deux résultats différents, ou bien deux suivis différents. Voici ma compréhension. Et je vais doucement. Le premier, encore un peu de temps, c'est un encore un peu de temps temporel. Le premier encore un peu de temps, c'est un encore un peu de temps temporel dans Jean 16, verset 16. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Il est temporel. OK? Il est temporel dans le sens où ce encore un peu de temps fait référence à tous ces événements-là que la mort de Christ va entraîner. Hein? Dans un premier temps, pas juste la mort de Christ, mais toute son arrestation va entraîner. Okay? Et ça va avoir son accomplissement dans sa mort même. Il sera enlevé de leurs yeux. Eux-mêmes vont se cacher. On en a parlé la fois passée. Donc, dans cet encore un peu de temps-là, oui, ils ne le verront plus. Ces gens à qui il parle dans la chambre haute ne le verront plus. En plus, on a le fait au théo, il y a le cachet, il y a timoré, il y a point panique, il y a crainte pour leur vie, etc. On en a parlé en long et en large. Donc, encore un peu de temps, dans les quelques heures à venir, plus tard, ils ne le verront plus. C'est juste. Après cette courte période, les disciples ne verront pas leur maître. On est dans le temporel. Ça s'est passé historiquement. Ils l'ont peut-être raconté qu'ils ont été sans le voir depuis sa crucifixion. Ils ne l'ont pas vu. Le deuxième, encore un peu de temps, c'est un peu différent. Hein? Il fait allusion à sa résurrection. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps, et vous me verrez parce que je vais au Père. Et c'est très important de comprendre cela. Le deuxième, encore un peu de temps, fait référence à sa résurrection. Ah. Les disciples ont revu le Seigneur. Il était avec lui pendant 40 jours. Hein? Il leur a dit la paix soit avec eux. Il était même dans la joie à l'avoir revu. Ils l'ont vu, ils l'ont revu après sa résurrection. Donc, encore un peu de temps, vous me verrez. Mais il n'y a pas que cela. Le vous me verrez. Certes, dans le temporel, c'est réalisé, c'est accompli, mais il n'y a pas que cela. Alors, c'est un début du vous me verrez. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus, nous l'avons établi. Et encore un peu de temps, vous me verrez. Nous sommes toujours dans le temporel, mais cette fois, ils l'ont revu, ils l'ont vu après sa résurrection. Mais il n'y a pas juste cela. Si c'était juste cela, il manquerait quelque chose au texte. Oui, ils l'ont vu dans le temporel, physiquement. Ils ont parlé. Ils lui ont même posé des questions. Ils ont passé des temps de communion avant son ascension. Ils l'ont vu. Mais il y a plus que ça, malgré cela. Encore un peu, c'est-à-dire que encore un peu de temps va bien au-delà des retrouvailles d'après la résurrection. Ça inclut les retrouvailles de la résurrection, ce que d'autres étudiants de la Bible contestent, mais moi je l'adopte. Ils l'ont revu après la résurrection, mais encore un peu de temps, vous me verrez, fait référence à plus que cela. C'est important de comprendre cette subtilité-là. En d'autres termes, le plus que cela, c'est quoi? Le plus que cela, c'est la venue du Saint-Esprit de Dieu. C'est dans le Saint-Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit de Dieu, qu'ils l'ont vu. Quand il disait, encore un peu de temps, vous me verrez, il faisait allusion, certes, à sa résurrection, mais plus particulièrement, plus largement, plus globalement, à l'envoi du Saint-Esprit, au don du Saint-Esprit, au consolateur que lui-même a promis. Et quand est-ce que cela s'est manifesté? Quand est-ce qu'ils ont vu le Seigneur de cette façon-là, de ce point de vue-là? Ils l'ont revu à la Pentecôte. Ah, à l'effusion du Saint-Esprit de Dieu. C'est là qu'ils l'ont vu. Ainsi, après avoir accompli l'œuvre de la rédemption, après être monté aux cieux, Jésus enverra son esprit auprès des disciples. Il vient de le promettre une nouvelle fois, parce qu'il l'avait déjà fait plusieurs fois. Le Christ est venu vers ses disciples par le ministère du Saint-Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de Christ. Alors, celui qui voit, mon représentant me voit. Mais c'est plus qu'une question de représentation, hein. C'est une façon de parler quand on parle de représentation. Hein? Alors, c'est bien important de comprendre cela. Le Seigneur est en permanence avec nous, avec vous, avec moi. Nous le voyons à travers le Saint-Esprit de Dieu qui agit, qui vit en nous, qui nous conduit, qui nous révèle constamment la vérité qui le concerne. Et par l'intermédiaire de son esprit, eh bien, nous le voyons. C'est pourquoi dans Matthieu 28, verset 20, il dit, Et voici, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Il a toujours le même principe en tête. Hein? Principe que, encore un peu de temps, vous me verrez. Je suis avec vous tous les jours. Il est avec vous maintenant. Il est avec moi. Je vois sa main par la foi. Et on voit à travers cette démarche du Christ un Dieu, on en a déjà parlé, un Dieu qui console, un Dieu qui se plaît à guérir, à panser les plaies, les bobos de ceux qui sont dans l'angoisse, de ceux dont l'univers est brisé, de ceux qui font face à des déceptions amères, à des maladies, hein. C'est une des applications pour ce soir. Le Christ est bien patient, hein? Plein de grâce. On se souvient le reproche de grâce qu'il a fait à ses disciples. Je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Ces têtes, nous nous connaissons. Ces problèmes, pas nous, nous pas ouais, nous pas ouais, perspective royaume, non. Nous pas ouais, si mal est la plus bon. Malgré ce reproche, je l'ai bien appelé un reproche de grâce, un reproche de compassion, de miséricorde, un reproche d'amour, il ne les a pas abandonnés, il n'est pas viré à le faire, il n'est pas quitté Jean-Baptiste là. Il continue à leur faire de plus grandes promesses encore. Il essaie de les comprendre dans leur faiblesse. On voit un Dieu qui console ses enfants dans la... Dans déprimé, découragé et abasourdi. On voit qu'un Dieu qui cherche à rassurer ceux qui se confient en lui, quand ils font face à de la tristesse, ne serait-ce que temporairement, frères et sœurs. Il leur dit, j'y reviens, pourquoi j'y reviens? Pourquoi j'y reviens? On en a déjà parlé. Mais j'y reviens parce que le Christ, il leur dit que leur tristesse est temporaire. Hein? Leur tristesse que son départ entraîne, commence à entraîner, il les voit. Il voit leur visage, ils sondent leur cœur dans la chambre haute. Il les entend s'exprimer, exprimer leurs préoccupations, leurs craintes, leurs déceptions, leur amertume. Même si on ne peut pas dire l'étape qu'on est, mais ils ont dit, ils ont exprimé, les questions qu'ils posent font état, révèlent des cœurs troublés, des gens déstabilisés, on en a parlé beaucoup, abondamment en tout cas. Mais ici, il reprend la même vérité. Il leur dit que leur tristesse se changera en joie. J'aime bien ça, hein? Leur tristesse se changera en joie. Hein? On saute le verset 17. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez. Et vous vous lamenterez, le monde se réjouira, vous serez dans la tristesse, mais verset 20, hein? Jean 16, verset 20. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez, pardon, et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Hein? Avez-vous compris que cette parole est pour vous? qui faites face à un temps difficile. Cette parole est aussi pour vous, dans un autre contexte. Ce n'est pas le Christ qui vous dit qu'il va mourir, certes. N'empêche que vous faites face, peut-être, à des situations angoissantes. Le contexte est différent. On est plus de 2000 ans plus tard. Mais si vous êtes dans la tristesse, c'est la même chose. Le Seigneur me charge de vous dire que tout n'est pas perdu pour toi. S'il y a quelque chose avec lequel vous devez quitter les lieux ce soir, c'est ça, OK? Tout n'est pas perdu pour toi. Les déceptions sont sévères, sont amères. Les difficultés sont bien grandes, vous dépassent. Les séparations, les pertes, les difficultés à joindre les deux bouts sont énormes. Des gens difficiles à convaincre de votre bonne foi, de votre bonne intention, de votre bonne volonté, qui refusent de croire. Vous donnez de l'amour, vous recevez de la haine. Vous pardonnez, vous recevez la rancune. Le Christ vous dit que ne lâchez pas. Gardez la foi. Et demeurez ferme. Parce que ça, ouais, il y a pour le changer. Continuez de bailler. Continuez de tendre l'oreille. Continuez de tendre la main. Continuez de tendre l'oreille et de tendre la main. Gloire à notre Dieu. Ah. Parce que après un temps son lot. Jésus dit ou à soya, après un temps son lot. Ah. Après la déstabilisation, c'est la restauration. Après la tristesse, c'est la joie. Après les pleurs, c'est l'allégresse. Mais c'est qu'on s'amène toujours dans la Bible là. Non, même au monde là. Non, allez, prends Job. Prends Déborah. Prends David. Non, mais. Non, mon monde ouvrez, papa. OK? Non, mais n'importe, non, mais Joseph. Dis mon monde, dans le parmi les héros de la foi. Puis après, il t'est fini fait noir. Et c'est pas de la clarté pour les mains. C'est pas de la lueur de l'espoir à l'horizon. Jamais Dieu ne délaisse. L'homme ou la femme qui se confie en lui. Ah. Gloire à notre Dieu, gloire à toi. Dieu entreprend de consoler ses enfants dans les moments d'affliction. Il console, il parle, il agit, il révèle, il donne, il fait grâce, il bénit, il pardonne, il restaure. On va vraiment Dieu parler, limite là, il ne peut pas parler seulement. Il va consoler seulement. Certes, c'est important que juste de consoler, bien entendu. Mais il ne fait pas que cela. Il agit aussi, il combat aussi. C'est un guerrier puissant que nous servons. Il combat aussi. Nous avons bon Dieu, beau parleur, petit faiseur. Nous avons bon Dieu, grand parleur, grand faiseur. Les croyants de l'Ancien Testament en étaient convaincus, frères et sœurs, car ils ont fait des expériences extraordinaires avec Dieu en ce sens. Par exemple, durant une période de grande difficulté, de grande affliction personnelle, le psalmiste a commandé son cœur de reprendre courage en se disant, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Psaume 42, verset 6, gloire à notre Dieu. Psaume 86, verset 17 également. 119, verset 76. Étant le Dieu de toute consolation, frères et sœurs, le Dieu que nous servons console ses enfants dans toutes leurs afflictions, car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Psaume 23, Proverbe 23, verset 18, gloire à notre Dieu. Frères et sœurs, ces promesses sont valables pour ceux qui servent le Seigneur encore aujourd'hui. Hein? Nous sommes toujours au verset 22. Chapitre 16, nous sommes en application de l'étude de ce soir. 16, verset 20, OK? C'est-à-dire que, où le Christ dit à ses enfants, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Gloire à notre Dieu. Ces promesses sont encore valables pour nous aujourd'hui et elles se réaliseront éternellement, ultimement dans la nouvelle Jérusalem. Même si votre chemin est parsemé d'épreuves, de difficultés, de tracas. Ah, vous pouvez espérer avec confiance dans le repos de votre Dieu, frères et sœurs. Ce repos est notre héritage maintenant et pour l'éternité dans la nouvelle Jérusalem. C'est une bénédiction pour ici et ultimement pour maintenant et ultimement pour l'éternité. Gloire à notre Dieu. Merci Seigneur. L'apôtre Paul, de Corinthiens 11, verset 23 à 28, il a exprimé la perspective remplie d'espoir que nous avons quand il dit car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous un poids éternel de gloire au-delà de toute mesure. Gloire à notre Dieu. Au cours de la captivité de 70 ans, frères et sœurs, les enfants d'Israël qui étaient à Babylone, Dieu leur a rappelé que leur calvaire prendrait fin un jour, car je connais les projets que j'ai formés sur vous dans ta maladie, dans tes séparations, dans tes amères déceptions. Dieu a des projets extraordinaires pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Et le Seigneur ajoutera plus tard, Jérémie 31, verset 17, il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel, tes enfants reviendront dans leur territoire. Ces gens-là faisaient face à des situations noires. Il n'y avait pas d'issue, un peu comme quand ils se retrouvaient devant la mer Rouge. Et Dieu savait qu'il allait frayer un chemin devant ces gens-là. Voilà les promesses répétées que nous trouvons dans la parole de Dieu. C'est ce que j'appelle, en application de l'étude de ce soir, un Dieu qui s'affaire, un Dieu qui s'acharne à consoler ses enfants en attendant qu'il les délivre dans le temps difficile, frères et sœurs. Laissez vos cœurs et vos oreilles ouverts parce que Dieu est en train de vous parler ce soir. Il vous a déjà parlé par d'autres personnes pendant la journée, pendant la semaine. Il le fera encore. Tant que ton épreuve durera, il continuera de vous parler dans sa parole, à travers un cantique, à travers une chanson. Restez alerte, ouvert, ouverte. Pour recevoir les paroles de consolation, les paroles de guérison, de pansement de cœur que votre Dieu, eh bien, vous enverra l'Église du Seigneur. Oui, notre Dieu est fidèle, il est grand, il est juste et bon, eh bien, de servir un Dieu comme cela. Connaissant cela, Jérémie a dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, dans mes angoisses, dans mes difficultés, dans mes problèmes. Dans mes maladies, dans mes tracas, dans mes difficultés, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Qu'est-ce qui m'amène là? Je ne divague pas. Hein? Je suis dans l'étude. Hein? Ce qui m'amène là, c'est quand je dis que notre Seigneur entreprend toujours de consoler ses enfants. Et je vous évoquais tous ces passages, toutes ces déclarations, toutes ces expressions d'espoir des hommes de Dieu de l'Ancien Testament. On aurait pu faire la même chose, à part Paul qu'on a utilisé, mais on n'a pas utilisé d'autres, ou des hommes du Nouveau Testament. Qu'est-ce qui m'amène là? C'est en vous disant que ceux qui ont marché avec le Seigneur dans l'Ancien Testament, ils l'ont appris, ils le savent. Nous aussi, nous avons besoin de continuer de le savoir, d'en être convaincu, de le comprendre, que Dieu nous console et que Dieu agit pour nous. Le Christ prie même pour nous, intercède même pour nous auprès du Père. Alors, ben oui, épreuve, oui. Nous te connaissons depuis péché, tu es fini envahir le monde blanc, dans l'Éden, mais il faut que nous te souffrions. Nous souffrions avec courage. Sachez que vous n'êtes pas seul. D'autres sont passés par là. Vous êtes encore là-dedans, mais c'est ça. Dieu a un agenda qui est infaillible. Dieu a un calendrier d'intervention qui est infaillible. On l'a vu tout à l'heure quand on parlait du plan de salut. Comment ils se sont répartis les tâches et puis tout est réalisé à merveille, en sorte que ton salut est parfait, ton salut est éternel. Alors souffrez, gémissez dans l'espérance, autrement dit. Servez le Seigneur dans l'espérance. Appuyez-vous sur lui, comptez sur lui d'heure en heure, tant que Dieu le combat. Que l'on vive ou que l'on meure. Comptez sur lui de l'honneur. Soyez bénis. Amen.
Amen. Merci, pasteur, pour la